Bonjour Lionel.
Bonjour Émilie.
Alors, tu as plus de 10 ans d'expérience dans le domaine du SEO. Donc, merci d'être venu nous rejoindre ce matin pour nous parler de toute cette expérience et cette expertise. Est-ce que tu peux expliquer brièvement à nos auditeurs de quoi il s'agit le SEO?
Alors le SEO, c'est très simple. C'est si tu veux, quand tu fais une recherche sur Google, tu as soit les résultats payants, donc c'est souvent écrit annonce sponsorisée. Tu sais, c'est vraiment le Google Shopping aussi. C'est vraiment les résultats qui sont très très haut dans la page et pour lesquels tu vas payer pour être présent. Alors tu as le SEO, on l'appelle aussi le référencement naturel. C'est le fait justement, grâce à certaines techniques, réussir à être présent naturellement dans les top positions de Google sans payer.
Super, merci. Et comment est-ce qu'on devient expert SEO? Je crois savoir qu'il y a un parcours un peu atypique pour toi et puis surtout qu'il n'y a pas de diplôme en fait en SEO. Tu ne peux pas te spécialiser à l'université ou dans une école de commerce en SEO. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit point là-dessus sur ton parcours et ceux qui veulent le devenir, comment le deviennent, comment ils le deviennent?
Oui, exactement, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire qu'en école de commerce, déjà, si tu as un module de quelques heures sur le SEO quand tu es en master, c'est déjà pas mal, tu vois. Bon, non, il n'y a pas vraiment de diplôme, il y a peu de formation. Alors, hors formation, tu sais que tu payes avec ton compte personnel de formation. Mais sinon, en tout cas, des formations diplômantes universitaires, il y en a extrêmement peu. Il y en a peut-être aux États-Unis d'ailleurs, mais pas forcément en France. Et du coup, on est sur vraiment de la formation, bah, soit autodidacte. Ce n'est pas forcément mon cas, mais certains grands experts se sont mis sur le SEO en tant qu'autodidacte parce qu'ils ont découvert un domaine qui les passionnait, ils se sont beaucoup formés en lisant, en regardant des vidéos. Soit, et ça a été un peu mon cas, par le fruit du hasard, c'est-à-dire que moi, à la base, je suis agrégé de philosophie, donc tu vois, j'étais quand même assez loin des domaines du digital et du SEO en particulier. Néanmoins, à la faveur d'un stage, en fait, j'ai été plongé tout de suite dedans. Je suis entré par le versant éditorial du SEO parce que, bon, comme le savent sûrement tes auditeurs, quand on pense SEO, on pense souvent mots-clés, contenu, etc. Et donc, avec ma formation philosophique, on va dire, j'étais plutôt bon en contenu. Et voilà, je suis tombé dedans par un stage, ça m'a plu, j'ai continué. Et aujourd'hui, ça fait 11 ans que ça continue.
Ok, génial. Et comment est-ce que ça se passe le SEO chez 24S? Donc, pour faire un petit point, 24S, en fait, c'est la plateforme de vente en ligne du groupe LVMH. Je suppose qu'il y a une différence entre gérer le SEO au sein d'un grand groupe et gérer le SEO en sein d'un freelance et que le SEO, justement, au sein d'un grand groupe, c'est peut-être aussi une partie de management. Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur les différences, en fait, de management ou de gestion du SEO au sein d'un grand groupe et au sein d'une PME ou d'un statut de freelance?
Ouais, bah écoute, 24S, alors ça, des fois on se qualifie de start-up au sein du groupe LVMH. On est vraiment la plateforme e-commerce multimarque. En ce cas, ce n'est pas du tout, par exemple, le site e-commerce de Louis Vuitton. Hein. C'est vraiment, certes, on vend des marques du groupe LVMH en exclusivité, comme Dior, Céline ou Moana, par exemple, et bien sûr Louis Vuitton. Mais tu vois, on vend aussi des marques qui appartiennent à d'autres groupes ou même indépendantes. Et la chose à faire en SEO dans ce contexte, c'est pas être SEO manager au sens où je gère une équipe SEO, parce que factuellement, l'équipe, c'est moi, je suis tout seul à faire du SEO. En revanche, c'est plutôt coordonner justement les différents pôles de façon à ce que nous publions sur notre site soit SEO friendly. Donc, ça veut dire, par exemple, pousser les bons projets techniques, être présent auprès du merchandising quand ils publient les différents produits, s'assurer qu'ils ont les bonnes dénominations. Et voilà, tu vas faire toutes les opérations nécessaires pour que notre visibilité sur Google soit maximale.
Mais donc, ça veut dire qu'en fait, au sein du groupe LVMH, donc pour 24S, tu as en fait un rôle transversal. En fait, tu fais le SEO, mais tu travailles avec différents départements et différentes équipes.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que bon, je relève du département marketing. Mais en effet, finalement, mes équipes les plus proches, j'ai envie de dire, sont pas forcément les équipes au sein du département marketing. À vrai dire, voilà, j'ai plus finalement de travail en commun avec les équipes produits ou techniques ou le merchandising qu'avec d'autres membres de l'équipe trafic. mais qui sont sur d'autres leviers d'acquisition.
D'accord, ok. Et alors, juste pour faire un point, est-ce qu'au niveau technicité du travail, c'est-à-dire bon, le SEO, ça reprend en fait trois choses principales, le contenu, la qualité technique du site et les liens qu'il peut y avoir en interne et en externe. Est-ce que c'est la même stratégie qu'on va mettre en place hein, pour un grand groupe et pour une PME ou même un solopreneur? Est-ce qu'on peut activer les mêmes leviers?
Oui, tout à fait. En fait, on est toujours sur les trois mêmes leviers. Simplement, c'est des questions de dosage. Et selon le secteur d'activité ou selon la typologie du site aussi, on va appuyer plus ou moins fortement sur l'un ou l'autre. Par exemple, sur le e-commerce, généralement, les enjeux techniques seront supérieurs parce qu'il y a beaucoup plus de pages et c'est important que Google puisse y accéder correctement. Alors que, par exemple, pour un coach, admettons, ou sur des sites de lead, hein, tout simplement, je pense à l'assurance, par exemple. Là, ça sera plus des sites de contenu dont on va accentuer un petit peu. Mais à la fin, il faudra toujours une bonne base technique et il faudra toujours ou quasiment toujours du net linking.
D'accord. Donc en fait, il y a les trois mêmes pôles, technique, contenu, net LinkedIn, mais en même temps, les stratégies sont adaptées en fonction de la spécificité, du client ou de l'objet pour de l'activité du client.
Absolument, absolument. D'ailleurs, ce serait une erreur de dire qu'il y a une stratégie SEO, comme s'il y avait une stratégie valable partout, un peu magique et passe-partout. Voilà, non, c'est toujours très adapté, en fait, à la fois au secteur d'activité, parce que ça dépend beaucoup de l'environnement concurrentiel, et puis, bien sûr, au type de site qu'on a. Tu vois, c'est pas la même chose d'avoir un WordPress avec quelques pages que d'avoir un site e-commerce de plusieurs centaines de milliers de pages. Ou encore des sites, voilà, un petit peu hybrides. Tout ça, c'est différent. Et donc, à chaque fois, mon rôle que j'ai pu avoir, par exemple, chez GroupM, avant d'entrer chez LVMH, voilà, j'avais une clientèle de très belles marques. Mais tu vois, c'était pas la même chose de faire le SEO pour, par exemple, Transavia, qui a été un de mes clients, ou pour la Massif. Voilà. Il faut toujours s'adapter.
Il y a des risques de ne pas faire de SEO ou de se dire je n'ai pas le budget ou pas suffisamment d'argent pour le moment, je vais le faire plus tard.
Bah, le risque, c'est de le faire trop tard. En fait, le SEO coûte pas grand-chose. Si tu veux, pour faire du trafic sur un site web, bon, je vais pas te faire la théorie de tous les moyens, de tout ce qui est possible, mais grosso modo, tu as quand même un versant payant. Tu peux payer de l'argent sur Facebook, sur LinkedIn, sur Google aussi. Tu peux payer de l'argent à différents endroits. Simplement, ça, c'est du trafic qui est un petit peu assuré, hein, c'est le but de ces médias-là. Mais si tu coupes la source si tu coupes la source d'argent, si tu n'as plus de budget, tu n'as plus de trafic, tu as tout perdu, tu n'as plus rien. Alors que si dès le début, tu commences à mettre en place les best practices SEO, c'est sûr qu'à moyen long terme, c'est ça qui va être satisfaisant parce que tu auras un trafic pérenne et gratuit.
Et tu as un exemple à nous donner d'entreprise qui a avec qui ça s'est mal pour qui ça s'est mal passé parce que justement elle n'a pas géré sa stratégie SEO.
Oui, bah écoute, par exemple, ces dernières semaines, j'ai été amené à travailler pour une entreprise voilà, qui revend du textile, qui est, en fait des surplus de textile, pour faire très simple. Et donc, j'ai regardé un peu son environnement concurrentiel, et puis elle me disait, bah tiens, on a tel site, je ne sais plus exactement son nom, peu importe, on a tel site qui est un de nos concurrents. Et puis j'ai commencé à faire mon analyse, j'ai les outils qui permettent de savoir, bah tiens, n'importe quel site web, hein, je peux savoir quel est à peu près son trafic SEO tous les mois, sur quelle requête il est positionné, enfin, quelle est sa situation d'ensemble en SEO. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait un des concurrents qui avait tout simplement tout perdu. C'est-à-dire que Google, il fait des mises à jour de son algorithme quand même assez régulièrement. Et l'une d'entre elles, qui est arrivée à la fin du mois d'août, c'était une mise à jour qui valorisait beaucoup le contenu sur les pages. Or, le concurrent qui était un site de e-commerce qui vendait des tissus, des contenus, il n'en avait pas fait. C'est-à-dire que fonctionnellement, le site e-commerce était bon. Niveau design, il n'y avait pas forcément de soucis majeurs. Mais en termes de best practices SEO, il ne les respectait pas. Et en fait, au début, ça passait pour l'algorithme à un instant T. Google acceptait malgré tout de faire remonter le site. Mais à un moment donné, faute de best practices appliquées, et ben, il a perdu tout son trafic SEO. Voilà. Et ça a dû être un coup dur, je pense, pour eux.
Et à partir de quand tu conseillerais de démarrer, de faire attention à son SEO à partir de la création du site ou est-ce qu'il est possible encore de le faire après?
Ah, c'est mieux de le faire le plus tôt possible. Quand on a la possibilité de le faire avant le lancement du site, c'est mieux parce qu'on est sûr de lancer un site qui respecte toutes les guidelines Google. C'est surtout ça le point. Après, il n'est jamais vraiment trop tard, mais c'est sûr que ça coûtera beaucoup plus de temps, d'argent, de ressources de travailler sur un site. On n'a jamais fait le SEO, mais il y a déjà 1000 pages, que sur un site qu'on vient de lancer. On est sur une échelle plus réduite. Et on peut tout de suite se mettre d'équerre.
Est-ce que ton web designer, il peut implanter en même temps ta stratégie SEO et créer ton site?
Bah, c'est évidemment, enfin, le web designer, généralement, n'a pas l'expertise SEO, mais s'il a le bon contact, s'il est accompagné par quelqu'un qui est un peu expert du domaine. Oui, ça sera lui qui a implémenté la plupart des recommandations, en tout cas la plupart des recommandations techniques.
Merci. On a parlé beaucoup du terme SEO, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que c'est faire arriver ton site Internet en première page de Google? On peut faire un point sur les fondamentaux?
Oui, bien sûr. Alors le SEO, pour te le définir vraiment très rapidement, peut-être en une phrase. Ça serait mettre en œuvre des moyens techniques, des moyens de contenu, des moyens éditoriaux, hein. Et puis aussi le fait de recevoir des liens depuis d'autres sites, par exemple des blogs ou des articles de presse, peu importe. Le tout dans une stratégie qui consiste à être le mieux placé possible dans les résultats de Google. Alors c'est les résultats gratuits, j'entends, hein, pas les résultats payants. Ça, c'est une toute autre démarche. Et voilà, le SEO, c'est coordonner un peu cet aspect technique, contenu et lien qu'on reçoit depuis les autres sites.
Quand tu parles d'aspect contenu, tu parles des textes ou des images. Et quand tu parles de technicité du site, est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin? C'est quoi le lien entre la technique du site et la stratégie SEO qu'on peut mettre en place?
Alors, je vais commencer par la technique et je reviendrai à l'aspect contenu. En fait, toute la base du SEO, c'est de pouvoir avoir des pages accessibles pour les robots de Google. Donc, accessible, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, écrite dans un certain langage. Alors, en l'occurrence, c'est le HTML, parce qu'il y a plusieurs langages, hein, pour coder un site. Oui, Google, il lit essentiellement le HTML. Et puis une fois qu'on a ce langage-là, comment les pages sont liées les unes aux autres, comment elles sont structurées. Donc il faut que Google puisse arriver sur les pages en question. Ça peut paraître très évident pour un site de 5 ou 10 pages. Je peux t'assurer que chez 24s.com, avec 1 300 000 pages, ce n'est pas du tout évident. Ensuite, par rapport au contenu, c'est-à-dire qu'une fois que Google peut aller sur les pages, après, qu'est-ce qu'il va en comprendre, qu'est-ce qu'il va en lire? Et ça, c'est effectivement du contenu textuel, des paragraphes qu'on écrit, du contenu éditorial, des balises aussi qu'on va renseigner. Est-ce que ma page, elle a un titre, par exemple? Ben, ne serait-ce que ça, avoir un titre, c'est un point super important pour Google. Et après, au niveau des images, oui, c'est sûr, il existe quelques techniques d'optimisation des images et des petites balises à renseigner pour que Google comprenne mieux de quoi il s'agit.
Et le SEO, c'est un terme en lien uniquement avec Google. Je m'explique, quand on parle de SEO, on parle de SEO aussi pour les autres moteurs de recherche. Et ça fonctionne de la même manière sur Bing ou sur Baidu ou sur d'autres moteurs.
Ah oui, effectivement, quand on parle de SEO, chez nous, en Europe, en France, on fait l'adéquation, faire du SEO, c'est faire du SEO sur Google, parce que Google a plus de 90%, peut-être même plus de 95% des parts de marché. Mais c'est vrai que c'est pas valable partout. Par exemple, Bing, une part de marché non négligeable aux États-Unis. Yahoo aussi, si on va par là. Yahoo est très fort au Japon, par exemple. Et puis, il y a aussi des endroits, tu mentionnais Baidu en Chine, qui est le moteur de recherche dominant. Je pense aussi à Naver en Corée. Oui, c'est sûr qu'on peut faire du SEO sur tous ces moteurs-là. Après, enfin, il y a quand même deux grandes familles de moteurs. Il y a les moteurs à la Google, où vous avez une page blanche, vous tapez votre requête. Et puis là, tu vois, tu as ta liste de résultats avec les différents sites qui parlent de ta recherche. Sur Baidu et Naver, l'approche est un peu. quand même assez différentes, parce que c'est des environnements qui vont mettre en avant plutôt les choses de l'écosystème du moteur de recherche, tu vois. C'est un peu comme si, pour te donner une image pour tes auditeurs qui connaîtraient pas forcément ces moteurs, c'est comme si quand tu cherchais quelque chose sur Google, en première page de résultats, tu n'avais que des résultats google.com slash quelque chose, Google Plus, par exemple, à l'époque où il y avait ce réseau social, et puis Google Actualité, et puis Google ceci, et puis Google cela, ou un petit peu comme Yahoo d'ailleurs, hein, tu sais, t'as Yahoo Finance, Yahoo Divertissement, tout ça. Bah, imagine que tes résultats de recherche en Chine et en Corée, sur Baidu et Naver, ça soit un peu comme ça, quoi, que des résultats Baidu et Naver, et ensuite seulement en page 2, bon, vraiment, vraiment plus loin dans les résultats. Là, tu commences à avoir les résultats des différents business.
Donc, quand on tape, revenons à Google, hein, quand on tape certains mots-clés dans la barre de recherche de Google sur une thématique particulière et que Google affiche ton site Internet dans les résultats de la première page, ça signifie que le SEO de ton site est optimisé et on parle alors de trafic organique. Est-ce que tu peux confirmer donc ce point et nous expliquer ce qu'est la différence avec ce qu'on appelle le SEA?
Oui, bien sûr. Alors effectivement, le trafic SEO, on l'appelle parfois le trafic organique. Donc autrement dit, on l'appelle aussi le trafic naturel. C'est vraiment être visible sur Google sans avoir payé. Sinon, ça c'est le SIA, justement. Et puis générer du trafic. Donc oui, et en fait, la différence entre SEO et SIA, je l'ai dit, c'est que le SEO, c'est gratuit sur le principe. Attention, c'est payant, ça ne demande pas de ressources, mais en tout cas, c'est un trafic, tu ne payes pas pour avoir, tu ne mets pas 1000 euros dans l'espoir d'avoir 1000 ou 1200 visiteurs. Là, c'est un investissement plutôt en termes de temps, de contenu. Alors, tu as le SIA, la mécanique est différente, c'est-à-dire que tu mets de l'argent dans Google Ads, crées des annonces. Ces annonces-là, elles sont très bien placées, elles sont vraiment en position premium dans les résultats de recherche. Et là, tu vas payer à chaque fois que tu fais du trafic. Donc, c'est vrai que les deux, c'est la même résultat de recherche, mais c'est à des positions et avec des mécaniques assez différentes.
Et est-ce que c'est important de mixer SEO et SEA dès le début ou le SEO suffit seul? Quand faire quoi? Quand est-ce que ça devient intéressant de passer au SEA si tu démarres ton SEO seul?
Bah, disons que ça dépend beaucoup du contexte. C'est vrai que quand on vient de lancer son site, les résultats SEO, généralement, même quand on fait les bons efforts, les best practices, ça peut mettre un petit peu de temps. Et puis, des fois, il y a quand même de la concurrence aussi sur certaines recherches. Par exemple, si tu dis tu es avocat en droit des affaires, même si tu es le meilleur avocat ou tu es en droit des affaires, tu as une meilleure connaissance du droit et tout, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'avocat en droit des affaires, il en existe déjà. Ils ont déjà des sites. Toi, tu arrives avec un site tout neuf et tu ne vas pas être tout de suite premier ou dans des bonnes positions sur Google. Donc, c'est là que le SIA, au début, quand on a le budget, et ça, c'est un sous-entendu important, hein, et quand on a le budget, évidemment, on peut tout de suite avoir ses premiers visiteurs et ses premiers clients en payant. Mais c'est bien, mais ce n'est pas forcément le plus pérenne. Après, il faut se dire aussi que parfois, il faut faire les deux de toute façon. C'est-à-dire que déjà, on n'est pas obligé de mettre le même message sur l'annonce SEO et sur l'annonce SIA. Et puis parfois, tu sais, des fois, tu fais une recherche et tu as toujours 2, 3, 4 parfois résultats payants. Et à ce moment-là, tu te dis, même si je suis premier en SEO, il y aura toujours ces 4 résultats payants. Alors si je ne suis pas aussi parmi ces 4 résultats payants, si je ne fais pas du SIA, quelque part, je manque une opportunité. Tu vois, donc il peut y avoir des complémentarités entre les deux leviers.
Pour faire arriver ton site en première page de Google, est-il important de faire des actions en dehors du site, comme par exemple écrire sur des blogs et mettre ton site en lien à chaque fois? Je crois que ça s'appelle du netlinking. Tu peux nous faire un point là-dessus?
Oui, bien sûr. Alors, en fait, je disais, le SEO, c'est trois choses: technique, contenu et lien. Et souvent, le poids relatif, ce qui compte le plus, finalement, évidemment, la base technique, c'est super important parce que si la base technique, elle n'est pas là, Google, il peut pas aller voir le reste. Donc, un site mauvais techniquement, c'est mort. Mais si on a cette base technique, après, il faut les bons contenus, ça c'est vrai. Mais ce qui fera la différence, souvent, hein, en tout cas dans beaucoup d'univers que j'ai pu rencontrer dans mon parcours, souvent, ce qui fera la différence entre un site qui parle d'une activité qui est en 10e position en bas de page 1 ou en page 2, et puis un site qui est dans le top 3, malgré tout, c'est quand même le next linking. Parce que pour Google, les liens qu'on reçoit depuis d'autres sites, c'est un peu comme des votes en la faveur de ton contenu. Donc oui, c'est super important. Si on a l'opportunité d'écrire sur des blogs, si on a l'opportunité d'être interviewé sur un journal ou d'écrire un article, et puis ensuite avoir un lien vers son site, si on a toutes ces occasions-là, il faut les saisir. Parce que justement, alors, du coup, oui, on fait du net linking, et c'est vraiment encore aujourd'hui, en dépit de certaines communications de Google, aujourd'hui, ça reste un facteur de classement super important.
Et pour tous les contenus rédigés sur les réseaux sociaux, tels que Facebook ou d'autres réseaux qui renvoient vers ton site un lien, s'agit-il de netlinking également?
Non, ça sera. C'est assez intéressant parce que si les gens cliquent sur le lien, ça fera du trafic, mais sinon, ça n'aide absolument pas le SEO. Et je vais te dire pourquoi, parce que sur les réseaux sociaux, en fait, le robot de Google, il ne peut pas y aller. Donc, il ne peut pas voir les liens, en fait, qui sont faits vers ton site ou vers le site d'un autre. Alors,
D'accord.
pour certains, je suis désolé, peut-être que certains auditeurs tomberont un peu des nues hein, si je dis que Google ne peut pas aller sur les réseaux sociaux. Mais je crois que c'est vrai. Voilà. Donc, ça aide pas forcément, non.
Donc, on ne réfléchit pas du tout à une stratégie SEO en complémentarité des actions menées à partir des réseaux sociaux.
Non, enfin, la complémentarité, si tu penses un petit peu large, tu la trouveras toujours. Parce que, par exemple, je peux te dire, ben, si tu diffuses du contenu sur un réseau social, ce contenu-là, il va peut-être être visible de la part d'influenceurs qui, eux, ont un blog, par exemple, et depuis leur blog, ils vont faire des liens vers ton site. Et là, tu as gagné, tu as fait du SEO, mais de manière un peu indirecte. Mais sinon, il est vrai que les liens, l'influence qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux peut être totalement décorrélée du site, de la force SEO du site qu'on peut avoir. Je donne un exemple que j'ai en tête parce que je travaille dans la mode. Beaucoup d'influenceuses avant avaient un blog. Aujourd'hui, certaines d'entre elles sont juste sur Instagram, tu vois. Et c'est bien, mais du coup, elles n'ont pas forcément ni site web. Et quand elles ont un site web, il n'est pas forcément assuré qu'il soit très bon en SEO, mais ce n'est pas forcément le problème, tu vois.
Et comment on utilise le SEO pour acquérir des clients?
Ben écoute, là, je pense que la base du SEO, c'est quand même de chercher à savoir ce que tapent les gens sur Google. C'est super important. Et il existe des outils pour ça. Je crois que l'outil le plus basique au monde et que tout le monde connaît, c'est en fait Google Suggest. Alors, on ne connaît pas forcément que ça s'appelle Google Suggest, mais quand on commence à taper une recherche dans le moteur, tout le monde a déjà vu des suggestions que fait en dessous de la recherche le moteur. Et donc, en fait, ben, c'est à ça ce que suggère Google. C'est évidemment pas par hasard, c'est des choses que recherchent les internautes. Donc, s'intéresser à ces recherches, c'est la base. Et ces recherches-là, on peut les penser dans un parcours. Tiens, par exemple, quelqu'un qui tape, je te reprends l'exemple de l'avocat. Quelqu'un qui tape avocat, tu ne sais pas ce qu'il cherche parce que tu ne sais même pas s'il cherche le fruit d'abord, tu vois. Mais par contre, si quelqu'un qui cherche avocat Luxembourg, là déjà, l'intention de recherche, elle est un peu plus précise et là, tu peux commencer à optimiser tes pages. Mais si en plus, tu cherches les mots-clés et tu vois qu'il y a pas mal de gens qui cherchent avocat en droit familial Luxembourg. Tu vois, là tu trouves les mots-clés et tu es à peu près sûr sur une requête un peu précise comme celle-là que les gens qui vont la taper, si tu es bien visible sur Google, oui, ça peut tout à fait faire des clients. Ça, c'est clair. Parce que la recherche est précise.
Prenons maintenant un cas particulier. Tu as un entrepreneur qui a déjà mis en place un site internet. Est-ce qu'il est capable de faire son SEO seul? Est-ce que dans ce cas-là, tu as des formations à conseiller?
Alors, est-ce qu'on peut faire le SEO seul quand on n'y connaît pas grand-chose? J'ai envie de croire que oui, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de ressources sont disponibles en ligne. Le problème, c'est qu'elles sont d'une qualité souvent inégale, qui se dit souvent, c'est pas forcément moi qui le dis, parce qu'en fait, on m'a souvent dit, bah tiens, il se dit tout et son contraire, et je suis un peu perdu quand je dis des choses sur le SEO, quand je fais des recherches. Donc c'est compliqué en fait de démêler un peu la part du vrai et du faux. Et puis encore de ce qui est efficace versus de ce qui est juste peut-être une bonne pratique, mais qui ne vous aidera pas tellement. Donc, il y a quand même des petites choses qu'on peut faire quand on est entrepreneur, qu'on veut démarrer sans forcément faire appel à un expert. Je disais tout à l'heure, bah, mettre des titres corrects à ces pages, utiliser un petit peu Google Suggest, ou regarder quand même deux, trois formations, mais pas y passer trop de temps, mais regarder un petit peu quelques principes, ça peut aider un petit peu. Et après, c'est sûr que quand on a plus d'ambition, quand on veut vraiment une vision un peu pérenne, ça peut valoir le coup quand même de faire appel à un tiers, même juste pour une phase un peu de lancement SEO, tu vois, pas forcément pour payer tous les mois une prestation, c'est pas forcément le but, mais parfois, tu sais, se faire donner un petit coup de main au début pour être sûr d'être sur les rails, ça peut, ouais, je pense que ça peut vraiment aider.
Et qui a intérêt de faire du SEO? Tous les entrepreneurs, même les e-commerçants?
Oui, j'ai même envie de te dire, surtout les e-commerçants, parce que les e-commerçants, c'est un peu plus complète. C'est-à-dire que tu as beaucoup de pages, tu as énormément d'URL parce que tu as souvent beaucoup de produits, tu as des pages de liste de produits, tout ça. Donc, tu as intérêt à prendre le sujet encore plus en sérieux. Mais tu sais, même quand tu es coach, même quand tu es avocat, toi, tu fais du montage vidéo, voilà, ça reste quand même très intéressant parce qu'en SEO, tu sais, ce n'est pas comme les leviers marketing où c'est toi qui pousses un contenu face à une audience qui ne demandait rien. Tu vois, quand tu publies sur LinkedIn, les gens, ils n'ont rien demandé. Mais toi, tu vas leur pousser un contenu et tant mieux si ça les intéresse. Là, en SEO, la démarche est différente parce que c'est tes prospects qui vont taper des recherches sur Google. Et à partir de là, je pense que ça devient tout de suite intéressant d'être le plus visible possible sur les recherches que font les prospects en question.
Et est-ce qu'il y a des particularités à connaître pour les commerçants quand ils décrivent leurs produits? Et aussi, j'aimerais bien qu'on fasse un point sur les photos. Est-ce qu'il y a une stratégie SEO à mettre en place pour les photos des produits?
Alors, pour la descriptive de produit, je pense qu'il faut en dire le plus possible parce que c'est quand même souvent le parent pauvre du SEO sur les sites e-commerce. Google, il a besoin de se nourrir de contenu. Si tu es en e-commerce, tu as une robe noire, bon, et que tu dis, bah, cette robe est noire et de couleur noire, et il y a aussi la taille 44, 42, etc. Ça va quand même pas très très loin. Donc, il faut toujours essayer de donner des caractéristiques un peu précises, avoir un contenu unique et donner vraiment le plus de détails pertinents, non seulement pour Google, on fait le SEO pour Google, c'est vrai, mais à la fin, ça va aussi dans l'intérêt de l'utilisateur qui connaîtra d'autant mieux la proposition qui lui est faite. Après, pour la photo, oui, il y a des best practices. Alors, je peux en citer quelques-unes. Par exemple, quand on upload sur son CMS une photo qui s'appelle 6223 2WSVG, etc., ça ne veut rien dire. Alors que en fait, faut déjà rien que le nom du fichier, c'est idéal quand ça a un nom qui est celui du produit de la photo, de ce qu'on veut montrer. Tu vois. Moi, j'ai acheté un exemple robe noire, bah, il faudra que la photo s'appelle robenoire.png. Voilà. Et puis ensuite, il faut faire. Un texte alternatif. C'est important parce que, en fait, le texte alternatif, c'est quoi? C'est le texte qui va être lu par les logiciels utilisés par les malvoyants. Et bon, déjà, il faut le faire par empathie pour les malvoyants, c'est une évidence. Mais au-delà de ça, Google considère que pour lui, ça fait partie des critères d'accessibilité. Et c'est vraiment important pour le moteur. Et en plus, il va lire ce petit texte. Donc, c'est bien de décrire en texte alternatif qu'est-ce que montre l'image.
Combien ça coûte de faire appel à un expert SEO?
Ah, les prix sont variés. C'est-à-dire que, évidemment, si on cherche à le faire à bas prix, vous pouvez faire appel à du SEO en Inde, vous pouvez chercher des gens sur Fiverr et puis ça sera 5 $ ou 30 $. On peut tout faire. Il y a tous les prix. Et puis, à l'inverse, certaines grosses sociétés ont un budget SEO de 200, 300, 500 000 euros par an. Donc, tous les prix sont possibles. Après, pour un entrepreneur, je dirais que, voilà, qui est encore de taille modeste ou qui vient de se lancer, c'est pas la peine d'y mettre. Faut pas y mettre des dizaines de milliers d'euros, c'est certain. Ce qu'il faut voir, c'est plutôt partir d'une analyse initiale Et puis voilà, ne pas se leurrer aussi sur la qualité qu'on peut attendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des offres SEO pour un junior qui débute dans le SEO, qui fait ça à côté de ses études et qui connaît pas grand-chose, mais qui pourra vous rédiger un title. Bon, oui, ça sera 100, 150 euros et voilà, mais ça les vaut pas de toute façon et ça apportera pas grand-chose. Donc les tarifs journaliers d'un SEO en France, en tout cas, de ce que je constate, ouais, c'est difficile d'avoir quelqu'un qui soit quand même un petit peu senior, qui a un peu d'expérience, en dessous de 500-600 euros par jour. Et c'est logique, en fait, parce que cette expertise-là, elle a été acquise, voilà, par beaucoup de formations, beaucoup de tests, beaucoup de pratiques sur différents sites pour, à la fin, bah, aider l'entrepreneur sur son cas particulier. Mais je pense vraiment que ce n'est pas de l'argent perdu. C'est une somme, c'est vrai, qui peut être non négligeable pour quelqu'un qui démarre, mais c'est vraiment un investissement qui sera très, très rentable sur le long terme.
Et comment on sait qu'on fait appel à un expert SEO qui est qualifié?
Ouais, ça aussi, c'est une bonne question parce que c'est pas forcément évident. Ce qui peut aider, c'est de regarder son profil LinkedIn parce que souvent, tu as des informations sur les expériences antérieures. Et puis, en plus, si la personne prend de temps en temps, voire souvent, la parole sur le réseau pour parler du SEO, pour interagir avec la communauté, là, tu peux savoir à peu près si c'est quelqu'un d'un peu expérimenté, un peu sérieux. Ou alors, c'est quelqu'un qui d'un seul coup fait le SEO depuis 2 ans, qui est à peine diplômé, et puis qui publie jamais, qui n'a rien de spécial à montrer. Voilà, là, tu sais, ça peut être beaucoup moins cher, ça c'est vrai, mais ça peut être aussi assez compliqué en termes de résultats.
Est-ce que tu peux nous transmettre quelques bases à connaître si un entrepreneur décide de faire son SEO seul?
Je pense que la base. Vraiment, enfin, regardez ce que cherchent les gens. Si j'avais qu'un seul conseil à donner, c'est ça. Et regarde dans Google Suggest, commence à taper. Imagine-toi, en fait, il faut que l'entrepreneur y pense, qu'est-ce que pourraient taper les gens sur Google pour arriver à mon site? Ça, c'est la question. Tu ne peux même pas faire autre chose en SEO si tu ne te poses pas déjà la question, en fait. Tu vois? Et si tu te poses cette question-là, si tu commences à taper. À faire des essais sur Google et voir un petit peu les suggestions que Google fait, déjà, ça va beaucoup t'aider. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est évidemment, une fois que tu as fait cet exercice-là, ces termes-là, ils sont faits pour être utilisés. C'est-à-dire que les mots-clés, tu sais, c'est pas comme du sel que tu mets sur la soupe où il n'y a pas un endroit magique où tu les saupoudres, hein, ou une balise un peu cachée. Faut les utiliser. Pardon, faut les utiliser dans des contenus. Si tu vois que par exemple, montage vidéo sur iPhone, c'est une requête, par exemple. Mais toi, en fait, ce que tu fais, c'est pas forcément ça. Mais si tu as quand même envie d'être visible dessus, bah, c'est sûr qu'il faudra faire un contenu sur ce mot-clé-là. On va pas juste te dire, bon, bah, ok, ça je le fais pas. Ou alors tu te dis, ouais, mais en fait, je le fais sur Android, mais c'est un peu pareil. Et pas, je ne vais pas utiliser le mot iPhone dans mon contenu. Non, ça marchera pas. Google ne comprend que les mots qu'on lui dit, en fait.
Et puisque l'algorithme de Google il change constamment, cela suppose qu'il faut constamment refaire son SEO. Dans ce cas, le SEO est un chantier permanent.
Oui et non, c'est-à-dire que sur un gros site, il y a toujours plus ou moins de projets. Des fois, ça peut être on développe des nouvelles sections, des fois, si on a un nouveau produit, ou alors, bah, tiens, les conditions de marché, elles ont changé pour une offre, et à ce moment-là, il faut qu'elles soient beaucoup plus mises en avant. Tu vois, il peut y avoir ce genre de choses, sur plus des contraintes un peu externes. Alors que les contraintes internes au SEO, donc, comme tu le dis, les changements de l'algorithme, Google communique beaucoup dessus, et puis la communauté SEO en rajoute des tonnes. Mais très honnêtement, moi, ça fait une bonne dizaine d'années maintenant que je fais le SEO, et certains de mes pairs, en tout cas les plus sérieux, sont assez d'accord avec moi. C'est-à-dire que les fondamentaux n'ont jamais changé. Quand un site bon techniquement d'il y a 10-15 ans, il est toujours bon techniquement aujourd'hui, c'est pas le problème. Chercher à faire des contenus sérieux, pertinents, de qualité, ça marchera toujours. Et c'est pas un changement d'algorithme les changements d'algorithme, en plus, généralement, ils vont dans ce sens-là. Et pour revenir sur les 3 piliers, un technique contenu et netlinking, ben le netlinking, en dépit des changements d'algorithme, ça reste un facteur de classement très très important. Et donc, d'une certaine façon, l'algorithme change, c'est vrai, mais pas les best practices.
Est-ce qu'on fait du SEO de la même façon selon le même type d'entreprise?
Alors ça, c'est une vaste question. Le SEO, c'est vrai, enfin, il y a des théories un peu générales sur comment on fait le SEO, tout ça, mais on l'applique toujours à des cas particuliers. Et selon les secteurs d'activité, bah, c'est vrai que, on va faire le SEO très différemment parce qu'il y a des environnements très très concurrentiels. Moi, j'ai travaillé pendant 5 ans dans le domaine des jeux d'argent, par exemple, en France et à l'international. Je peux te dire que si on ne faisait pas énormément de netlinking et puis qu'on transgressait pas un petit peu les pratiques recommandées par Google, autrement dit, si on ne faisait pas ce qui s'appelle du black hat. Le black hat, c'est quoi? C'est jouer un peu, on comprend un peu comment fonctionne l'algorithme de Google et on essaye de lui tendre un peu des pièges ou essayer de le tromper un petit peu pour influencer sa position dans les résultats de recherche. Oui, si tu ne fais pas ces choses-là, c'est compliqué. Il y a des domaines, le crédit, l'assurance, la loi Pinel ou l'immobilier, ce genre de choses, c'est très compliqué. Et puis à l'inverse, il y a d'autres secteurs. Quand on est vraiment très spécialisé, quand on a un produit vraiment très spécifique, là par contre, c'est souvent plus simple. Mais encore une fois, après, ce qu'il faut, c'est toujours observer qu'est-ce que font les gens qui sont les deux, trois premiers sur la recherche Google. Alors, si tu fais architecte d'intérieur, mettons, hein, bah, regarde quelles sont les pages des trois premiers résultats qui remontent sur Google, qui sont bien positionnés. Regarde à peu près quel est le type de contenu. Regarde si c'est des contenus plutôt longs, plutôt courts. Regarde si. Ça, tu peux pas le voir si tu es entrepreneur, si tu connais pas les choses SEO, mais si un expert SEO t'accompagne, il doit regarder combien de liens ces pages-là reçoivent. Tu vois, regardez un petit peu au niveau des critères de classement, quelle est un peu, j'allais dire la formule magique, c'est pas une formule magique. Mais en tout cas, essayer de trouver les grandes hypothèses qui feraient que si tu les appliques, ça sera le succès pour ton propre site.
T'as des outils qui peuvent t'aider à faire ça?
Oui, c'est que à base d'outils, c'est des outils spécialisés. Moi, mon favori, il s'appelle Ahrefs. C'est vraiment un outil qui est au top. Mais après, il y en a d'autres. On parle parfois de SEMrush. Peut-être que des auditeurs connaissent mieux SEMrush. Il y en a d'autres. Hein. Enfin, je ne vais pas tous les citer. SeeStreets aussi. Ça, c'est vraiment les outils idéaux pour analyser un petit peu une situation donnée sur un mot-clé. Ouais, ça, c'est vraiment très utile.
Et est-ce qu'on fait du SEO de la même façon selon le type de site? Je m'explique, si on a un site vitrine ou un site avec plusieurs pages, parce qu'il y a un blog ou une landing page ou un site e-commerce, est-ce qu'on réfléchit sa stratégie SEO de manière différente?
En fait, ce qui fait la différence, c'est la volumétrie de page. Et généralement, l'effort de volumétrie, c'est plutôt du côté soit e-commerce, soit éventuellement site média. Là, il y a beaucoup de pages et donc les enjeux se déplacent légèrement. C'est-à-dire que ça annule pas les best practices en termes de contenu, ni en termes de netlinking d'ailleurs. Mais par contre, par exemple, quand tu es en e-commerce, l'aspect technique est plus important. Parce que tu as un vrai enjeu sur l'accessibilité de tous tes produits pour les moteurs de recherche, pour que tout se remonte bien là où il faut et que ton offre soit la plus visible par les internautes. En revanche, quand tu es un site qui fait des leads, quand tu fais, je sais pas, de l'assurance, quand tu fais du coaching, ce genre d'activité, là, tu as beaucoup moins de pages, mais par contre, tes enjeux seront plus sur les contenus, voire même très, 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 très fort sur le netlinking. À voir, ça dépend. Pour ça, à chaque fois, moi, quand je fais du SEO, que ce soit à LVMH ou en freelance, ça commence toujours par une analyse de la concurrence sur les mots-clés principaux. Parce que sinon, on se perd un petit peu, on ne sait pas sur quoi appuyer. Donc, in fine, c'est un peu un mélange entre la typologie de site et puis le secteur d'activité, le type d'entreprise dont on parlait précédemment.
Est-ce que tu as des conseils en CMS qui sont plus SEO friendly?
Bah, disons que les gros CMS aujourd'hui, ils sont quand même plutôt SEO friendly. Je pense à WordPress, Shopify, Magento. Généralement, ça se passe pas trop mal, mais ils ont quand même des pièges un peu spécifiques. Enfin, WordPress, par exemple, selon ce qu'on veut en faire, il y a des cas, ils s'inventent pas, quoi. Ils tendent des pièges. Tu sais, les CMS, ils sont là avant tout pour montrer des sites jolis. qui sont censés plaire aux utilisateurs et qui sont très bien fonctionnellement, mais parfois, j'ai envie de dire, la beauté fonctionnelle, elle peut cacher des pièges en SEO. Et ça, c'est par expérience qu'en SEO, je les connais. Mais voilà, ça mérite une petite réflexion. Après, je dirais, je vais le faire un peu vite. Pour les sites de contenu ou de leads, WordPress, c'est très très bien. Pour le e-commerce, Shopify, en ce moment, ça marche quand même pas trop mal. Et puis WordPress avec le plugin WooCommerce, c'est très bien aussi, voilà. Mais je conseille par contre vraiment, enfin, on n'est pas obligé de prendre mes recommandations, hein, pas du tout. Mais je pense quand même que ça peut être mal avisé d'aller sur des CMS un petit peu exotiques, pas très très connus au bataillon, tu vois, parce que ça peut tendre des pièges. Des fois, j'ai eu un cas très très récent, c'était pour une maison d'hôte, où en fait, c'est un couple, ils ont une maison d'hôte en Normandie, et puis ils voulaient leur site web. On leur a conseillé un CMS un peu étrange. Et en fait, tu te rends compte que Google, il n'arrive même pas à lire la page. C'est-à-dire que visuellement, pour l'utilisateur, c'est bon. C'est plutôt joli, même, hein, ça a été fait par un graphiste, alors c'est plutôt pas mal. Mais en dépit du contenu, Google, il n'y a rien du tout, il ne comprend rien. Donc le site, il n'est pas référencé, voilà. Donc faire un petit peu attention et rester, si c'est possible, sur les quelques grandes solutions.
Et avoir un beau design de site, ça ne sert à rien, et seule la qualité des textes compte, ou c'est quand même important de faire attention à son design pour mettre en place une stratégie SEO?
Parfois, c'est utile pour l'utilisateur, c'est-à-dire que Google, le robot Google s'en fiche éperdument parce qu'il n'est pas capable de comprendre ça. Enfin, il le comprend de mieux en mieux, tu me diras, mais quand même, il est très loin d'avoir une vision utilisateur. Donc, ce n'est pas très important en SEO. Maintenant, si tu arrives à être bien placé en SEO, mais ton site, il est tout pété, il est tout moche, pour tes conversions, pour générer des clients, pour des prospects, ça peut être un peu plus compliqué. Voilà. C'est-à-dire faut penser de bout en bout. Hein. C'est une chose d'apporter du trafic par le SEO ou même par du SIA ou autre chose d'ailleurs. Et puis à la fin, si la page elle a pas été un minimum soignée, bah, ça ne convertit pas, quoi. Donc il faut quand même faire un peu d'effort sur cet aspect.
Je crois que tu nous as dit avant que la quantité des pages, elle comptait aussi. Est-ce qu'il y a un juste équilibre à trouver dans la quantité des pages, combien? Et puis aussi, est-ce que chaque page, quel est l'équilibre texte-image pour mettre en place une très bonne stratégie SEO?
Bah, je dirais que bon, c'est pas forcément au nombre d'un page, parce que si c'était vraiment qu'au nombre d'un page, en fait, on ferait tous des sites e-commerce ou des sites médias et ça aurait aucun sens pour certaines choses. Après, le piège un peu classique, alors c'est moins à la mode quand même, hein, depuis un an ou deux, mais ça reste tout de même pratiqué, c'est le site One Page, qui est très beau visuellement, mais il n'y a qu'une seule page sur le site. Hein, ça explique tout de en long, large, travers, il faut scroller un peu, il y a tout. Bon, ça, en SEO, pourquoi les gens ne le font plus, ou moins, en tout cas, parce qu'en SEO, ça ne marche pas. Voilà, Google a quand même besoin de plusieurs pages, mais en fait, tu sais, le but, ce n'est pas de multiplier les pages, c'est surtout de se dire, une recherche principale, ça sera égal à une page. Ça veut dire que, par exemple, pour un avocat qui ferait du droit des affaires, du droit de la famille, du droit fiscal et d'autres choses, On peut lister ça sous forme de liste à puce sur une page d'accueil. Ça marchera, ou même avec des choses plus jolies qu'une liste à puce. C'est bien, mais c'est pas ça qui fera remonter sur avocat droit des affaires ou avocat droit des familles. Ça, pour ça, le plus pertinent, c'est quand même de créer une page dédiée. Voilà, c'est plutôt ça mon conseil. Et après, sur la question des images, disons que ça, je pense qu'il faut pas surestimer non plus le poids SEO des images. Mais par contre, il est évident que dans certaines activités qu'on peut faire, le visuel est très important. Tu vois, enfin, l'optimisation de tes images quand tu vends tes fonds d'écran, c'est autrement plus important que quand tu fais du coaching, quand tu es coach PNL, tu vois. Donc ça dépend beaucoup du secteur d'activité. Après, il y a aussi le confort visuel pour l'utilisateur. Si tu fais un site de contenu, si tu expliques des choses ou tu fais des tutoriels, ça va être très compliqué, très indigeste si tu fais des très grands paragraphes de centaines de lignes. Tu vois, donc les images, ça a aussi ce pouvoir de faire respirer. Parfois, une bonne infographie, tu réalises des choses, hein, gratuitement et un peu sympa avec Canva, par exemple. Oui, ça aidera beaucoup, mais c'est au service de ton utilisateur aussi. C'est même plus vraiment du SEO.
Et est-ce que tu as des méthodes d'écriture en SEO que tu peux transmettre?
Je pense que il faut pas essayer de trop optimiser. C'est-à-dire souvent ce que je remarque, c'est que souvent les personnes qui connaissent pas très très bien le SEO et qui veulent faire des textes optimisés, du coup ils en font des tonnes. C'est-à-dire que toutes les phrases, par exemple, ils vont faire, tiens, je prends ton exemple, montage vidéo, bah du coup, ils ne pourront pas s'empêcher de mettre les mots montage vidéo dans toutes les phrases et ça va être indigeste. Et même, je parle même pas de la vision Google, hein, je parle juste pour un lecteur à peu près bien normalement constitué, tu sens tout de suite que ça pose un problème. Donc ne pas essayer de trop en faire. Et dans le même temps, j'ai beau jeu de dire ça parce que j'ai quand même à peu près 10 ans d'expérience en rédaction de textes divers et variés. Donc pour moi, j'avoue que c'est un peu plus facile. Peut-être quand on n'est pas très très à l'aise dans la rédaction, il peut être judicieux de rechercher un petit peu les services de quelqu'un, d'un prestataire pour le faire, bah, si on n'est pas très à l'aise. Mais en tout cas, voilà, il faut essayer de faire des qualitatifs et de penser avant tout à ses lecteurs. Peut-être plus penser à ses lecteurs que penser en termes de SEO. C'est paradoxal, hein, ce que je te dis. Mais à la fin, avec le recul, moi, c'est comme ça en tout cas que je vois les choses.
Quand on lance un site en plusieurs langues, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à connaître?
Oui, c'est-à-dire que faut réfléchir à la structure technique du site. Y a, par exemple, est-ce que tu vas faire. Imaginons, hein, tu as emilykaiser.com et puis tu dis, bah, je veux être en anglais, en espagnol, en italien, en français, en allemand, etc. Bah, tu as le choix en fait. C'est-à-dire, tu peux très bien dire, je vais faire un point com pour les États-Unis et puis je vais avoir un site .fr pour la France, un point de pour l'Allemagne, un point it pour l'Italie, etc. Et honnêtement, faut dire ce qui est. C'est pas forcément le plus facile à réaliser, hein, mais c'est quand même. Les best practices iraient plutôt dans le sens de faire un site par langue. Mais c'est compliqué. Et techniquement, ça peut être difficile à maintenir. Ça a un coût d'avoir plusieurs sites, tout ça. Donc, voilà, généralement, les gens ne le font pas.
Et
Après,
de
c'est
quoi?
analogique.
Ah,
En fait,
pardon.
ce qu'il faut, c'est avoir plutôt une logique de répertoire, peut-être de réfléchir en termes de répertoire. C'est-à-dire avoir emilykaiser.com/de pour l'allemand et puis es pour l'espagnol. Ça peut bien marcher, mais après, il y a un certain nombre de balises SEO un peu techniques pour le coup, et je ne voudrais pas être trop technique, sinon ça va être un peu long. En tout cas, il y a des points techniques à connaître pour que justement Google ne s'en mêle pas les pinceaux. Tu n'avais pas, par exemple, fait remonter ta version espagnole pour une recherche en italien ou avoir des pages en dollars canadiens. Alors, toi, ton lecteur, il est aux États-Unis et c'est des dollars américains, tu vois.
Mais est-ce que ça veut dire que si tu as un point com, il est préférable d'écrire en anglais sur ton site, et pas en français? Et à l'inverse, si tu as un point fr, du coup, c'est mieux d'écrire en français et pas en anglais?
Non, pour un point com, tu peux tout faire. Ce n'est pas un problème parce que point com, c'est, tu sais, beaucoup de noms de domaine en France ou dans plein de pays hein, sont en point com. En revanche, évidemment, si tu fais un point be, bah, il y a quand même Google va plus s'attendre à ce que tu écrives en français, en wallon ou en flamand plutôt qu'en swahili, tu vois. Mais ça, il y a un petit peu, faut qu'il y ait quand même une petite logique derrière ça. Quand tu as un site en point ca au Canada, bah, vaut mieux que ça soit écrit en français et puis en anglais. Et encore, ça dépend, parce que si tu as une activité que au Québec, tu peux très bien te limiter au français, tu vois. Et voilà, faut qu'il y ait une logique. Mais ouais, je te dirais, pour le point com, en tout cas, il n'y a pas un gros sujet d'inquiétude.
C'est quoi le duplicate content?
Alors, le duplicate content, on entend souvent parler en SEO, c'est le fait d'avoir un contenu qui est exactement le même sur deux pages différentes. Et ça peut être deux pages différentes du même site. C'est-à-dire, par exemple, ça arrive malheureusement souvent en e-commerce, c'est que tu as une robe noire courte et puis une robe noire longue. Et comme ton descriptif, il n'est pas suffisamment riche, en fait, tu as mis le même descriptif pour les deux robes. Et pour Google, c'est deux URL différentes, deux pages différentes, avec exactement le même contenu. Donc ça, c'est de la duplication interne. Et puis après, tu peux avoir de la duplication vis-à-vis d'un autre site. Si par exemple, tu te dis, bah, tiens, moi, Je n'importe quoi, je fais de la lithothérapie, je vais expliquer les propriétés des pierres, des différentes pierres, tu vois. Et puis, il y a un site qui est super référent là-dessus, qui est très légitime. J'ai qu'à copier-coller des morceaux de ces descriptifs. Bah, ça, ce sera du duplicate content. Et en fait, Google déteste, que ce soit interne ou en externe, Google déteste. Parce que pour Google, il doit remonter de l'information pertinente aux utilisateurs. Quand ils tapent une requête, les internautes, ils doivent voir un contenu unique par résultat. Et si Google voit des choses dupliquées, bah, soit l'un sera voleur de l'autre, hein, donc les voleurs, bah, ils n'ont pas forcément leur place. Et puis quand c'est à l'intérieur du même site, soit Google va choisir un peu au hasard une des deux pages, ou des fois il y a du duplicate content sur plus de deux pages, hein, d'ailleurs ça peut concerner des dizaines de pages. Donc Google va en choisir une un peu au hasard, ou alors il va en choisir aucune, et puis le site ne remontera pas. Donc oui, c'est un vrai point de vigilance. Et enfin, qu'on rencontre généralement plutôt en e-commerce, ou alors quand on a la fausse bonne idée d'aller copier comme ça des morceaux d'autres sites parce qu'on les trouve bien, quoi.
Il y a un risque d'être mal référencé si tu traduis le même contenu dans une autre langue ou si tu utilises le même contenu, ou alors d'autres risques plus graves.
Non, non, la traduction, ce n'est pas un problème. Le tout, c'est de ne pas être en duplication. Mais la duplication, effectivement, c'est quand même vis-à-vis de la même langue. On pourrait imaginer, ce n'est pas une bonne idée, hein, mais on pourrait imaginer que si tu trouves un site américain de quelqu'un qui est dans la même activité que toi, qui est le même genre d'entrepreneur, qui a l'air de réussir, et si toi, tu le traduis en français au Luxembourg, admettons, peut imaginer que ce ne soit pas vraiment du duplicate content. Après, je dirais que c'est quand même risqué parce que je pense, j'ai pas eu l'expérience de ça direct parce que déjà, c'est pas recommandé et puis les gens ne le font pas forcément. Mais déjà, à court terme, je suis pas certain que Google apprécie. Et sur le long terme, dans les prochaines années, c'est sûr que Google va le détecter.
Mais il
Mais
sanctionne qui?
s'il n'y arrive pas aujourd'hui, ça sera demain. Ouais.
Il sanctionne qui? Le premier, le deuxième?
Ah non, c'est toujours le deuxième, c'est le dernier arrivé. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que, en fait, le premier, deuxième arrivé, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas la date et l'heure de la publication. En fait, c'est à la date et l'heure où le robot est passé sur la page. Et tu vois, il y a des petits malins, par exemple, ça se fait toujours. Il y a des petits malins, ils voient un article qui sort sur un site, ils font de la veille pour ça, ils regardent et puis ils vont tout de suite copier-coller le contenu, faire leur page et puis forcer l'indexation de Google pour être les premiers. Et à ce moment-là, t'es plus dans une procédure SEO, t'es dans une procédure légale, t'es sur le plagiat, en fait.
Et si on revient sur les e-commerçants, est-ce que tu as quelques conseils à donner justement pour optimiser leur description de produits quand il y a plusieurs produits qui sont décrits de la même manière?
Ouais, je pense qu'il faut vraiment être le plus spécifique possible par produit, produire des pages utiles. Et des fois, c'est dur parce que parfois, les produits sont simples, ils n'ont pas forcément une histoire. Et puis, même quand ils en ont une, parfois, on a l'impression de faire un peu le tour. Moi, tu sais, chez 24S, on a des salles de lutte, par exemple. Oui, il y a des choses à dire parce qu'il y a des matières nobles et puis il y a un savoir-faire et tout. Mais ça n'empêche pas de c'est compliqué, en fait, quand tu as deux sacs d'une même collection, mais que l'un est petit et l'autre est grand. Bah, t'as un problème de taille, mais qu'est-ce que tu veux dire de plus? Donc, faut reformuler tout ça. Oui, c'est du boulot. Le SEO, c'est un peu de boulot.
Donc, ça veut dire que quand tu as le même sac mais dans des couleurs différentes, tu dois reformuler ta fiche produit.
Ouais, c'est ça. Enfin, si tu te contentes de remplacer noir par blanc et puis blanc par rouge, bah ça marchera pas. Ça reste du duplicate content. Parce que le duplicate content, alors j'allais dire, c'est pas par jeu de mots que je dis ça, mais justement, c'est pas tout noir ou tout blanc. En fait, tu as plein de nuances. Tu peux être dupliqué à 60%, à 10%, à 100%. Là, tu as plein de degrés. Mais à la fin, disons que si tu es au-dessus des 20-30%, c'est quand même un vrai problème, quoi.
Et est-ce que les plateformes comme Shopify, elles font un travail de SEO elles-mêmes dont peut bénéficier le commerçant?
Ouais, enfin, alors Shopify, je connais un peu moins, mais par exemple, WordPress, tu as des plugins qui sont censés t'aider un petit peu à faire le boulot. Par exemple, sur WordPress, tu as une extension qui s'appelle Yoast, Yoast. C'est pas mal parce que ça va créer différents fichiers techniques pour les moteurs de recherche. Ça va te faire un petit peu de recommandations sur tes titres, sur tes descriptions de pages. Ouais, ça peut donner un bon coup de main. Mais après, il faut quand même un œil externe, je pense, à moins de connaître vraiment sur le bout des doigts la plateforme. Il faut un petit œil externe pour pas tomber dans certains pièges.
En parlant technique, justement, Google Analytics dans tout ça, est-ce qu'il y a un rapport avec la stratégie SEO?
Il est indirect, c'est-à-dire que Google Analytics, évidemment, son gros mérite, ça va être de mesurer le trafic SEO. Et ça va être important parce que évidemment, tu vas regarder le nombre de sessions, ça c'est la base. Mais après, tu vas regarder le temps passé sur les pages ou le nombre de pages, tu vas voir une personne qui va sur ton site. Tu vois, si tu peux avoir des signaux de style, oui, tu as des visites, mais en fait, les gens sur ta page, ils restent 10 secondes. Bon, alors là, il y a peut-être un problème, tu vois. Où les gens, ils arrivent sur ton site, toi, tu as un blog, tu as plein de contenu, tu as fait plein de tutoriels, tu as partagé plein de choses. Puis en fait, les gens, ils vont voir qu'une page. Là aussi, il peut y avoir un sujet. Bah, ça peut servir à détecter les problèmes, disons, ou à mieux comprendre les comportements des utilisateurs une fois qu'ils arrivent par le SEO.
Souvent, ce n'est pas uniquement ton site internet qui apparaît en première page, mais beaucoup d'autres données. Et c'est OK, car plus ta marque est visible, mieux c'est. Pourtant, le SEO n'a rien à voir avec toutes les infos qui apparaissent en première page de Google. C'est qui la personne qui peut t'aider à rendre plus visible ta notoriété, ta marque, justement, sur cette première page de Google?
Oui, c'est vrai, tu as raison. Autant quelqu'un qui fait du SEO pourra t'aider à rendre visible ton site, autant pour tout ce qui est, par exemple, profils sociaux, profils LinkedIn ou Malte, par exemple, pour les freelances ou les différentes plateformes, tu vois. Ou je pense aussi aux e-commerçants. Tu m'as posé beaucoup de questions sur les e-commerce et les e-commerçants, souvent, ils se prennent des avis négatifs, par exemple, tu vois. Ça, à ce moment-là, c'est plus du SEO, c'est plutôt de la gestion de l'e-réputation. C'est encore un autre métier. Ça peut présupposer des connaissances SEO malgré tout, mais on est quand même sur un autre terrain.
Donc, le référencement du site et la visibilité de ta marque sur Google, ce n'est pas du tout la même chose. Et co comment justement, tu as des conseils pour arriver à rendre visible ta marque sur Google?
Je pense que quand on se donne de la visibilité sur les bons réseaux, je pense à LinkedIn parce que spontanément, les entrepreneurs du digital, en tout cas, mais pas que, ils vont quand même souvent sur LinkedIn. Quand tu es bien sur ton réseau social de référence, quand tu écris des articles, quand tu as la possibilité d'écrire pour d'autres sites ou de faire des interviews, ça, oui, tout ça, ça va renforcer ta marque. Le but, c'est de. Tu peux pas maîtriser à 100% en fait ce qui va se passer sur la première page de Google quand quelqu'un va taper ton nom et ton prénom. Mais tu peux au moins favoriser certaines choses en prenant la parole et en diffusant ton expertise sur les différents supports que tu peux. Ouais.
Et ouvrir un compte My Business, ça peut être une stratégie de développer une meilleure visibilité de marque sur Google?
Oui, c'est ça. Enfin, je dirais pas une stratégie, mais plutôt un moyen. C'est-à-dire que tu vas avoir un compte Google My Business, ça te permettra de mettre des photos de tes bureaux, par exemple, ou de toi, de mettre tes horaires, de mettre différentes choses. Tout comme aussi, d'ailleurs, avoir un compte sur Google Maps pour situer ton établissement. Comme ça te permettra d'être localisé, tu vois. Et si, par exemple, quelqu'un cherche agence vidéo à Luxembourg, tu auras très certainement un résultat Google Maps. Et c'est sûr, il vaut mieux que tu y sois. Pour y être, il n'y a pas de secret, il faudra que tu aies fait la manipulation sur Google Maps.
Et il faut multiplier tous ces canaux qui parlent de ta marque pour être plus visible sur Google, comme par exemple, je ne sais pas, je pense à Wikipédia, les plateformes de référence telles que Codeur, quand tu es freelance ou Superprof, ou alors quand tu as une agence en marketing, je crois, tu as une app belge qui référence les agences qui s'appelle Shortlist. Il faut multiplier tous ces canaux ou il faut faire une sélection du bon canal sur le.
Ouais, tu l'as dit, c'est plutôt choisir le bon canal. Ça sert à rien d'être partout parce qu'après, on n'est plus crédible non plus. Par exemple, si tu es freelance, déjà, tu es sur Malte et puis tu es sur une autre plateforme, t'as freelance.com, par exemple. Bon, voilà, c'est déjà pas trop mal. Si après, on te retrouve de partout et nulle part, en plus de ça, tu as des différences qualitatives. C'est pas, si tu es à la fois sur freelance.com et puis sur Fiverr, par exemple, c'est un peu bizarre, tu vois. Ça t'aide pas de positionner. Il faut vraiment se positionner, être en adéquation avec sa marque et avec sa cible. Et si c'est que par le site web et par LinkedIn, si c'est pas par autre chose, bah c'est OK quand même, parce que si ça se trouve, c'est très légitime comme ça. Faut multiplier, c'est bien d'être sur plusieurs fronts, mais faut rester quand même à l'aise à la fin.
Ok, revenons à 24S. Comment tu fais pour gérer la marque?
Alors là, la marque 24S, alors ça devient une marque, il y a des recherches, il y a des gens qui tapent 24S, 24S.com sur Google. Malgré tout, on a une notoriété relativement jeune parce que le site a moins de 5 ans. Il a, ou, non, maintenant, ça y est, il a 5 ans. Et voilà, ça reste très récent. Donc, en fait, notre principal enjeu, c'est évidemment le SEO hors marque. Alors, ce que j'entends par SEO hors marque, c'est quoi? C'est les recherches que vont faire les internautes par lesquelles ils vont trouver les différents produits que nous vendons. Par exemple, 24S.com, on vend des sacs Céline, on vend des chaussures Balenciaga, on vend tout un tas de choses. Et du coup, notre but, c'est d'avoir de la visibilité. Quand les gens ils tapent, je ne sais pas moi, sacs Louis Vuitton, on a des sacs Louis Vuitton en exclusivité. C'est sûr que sur ce genre de requête, comme ça contient le nom d'une marque, de marque forte, qui ont déjà un site web, on ne pourra pas être premier, ce sera toujours louisvuitton.com. Ou si c'est chaussures Balenciaga, ben ça sera balenciaga.com le premier. Après, si avec de l'optimisation SEO, nous, 24S.com, sur cette recherche-là, on peut arriver à être deuxième, ben ça nous apportera du trafic. On aura peut-être une proposition de valeur aussi différente vis-à-vis du site de la marque elle-même. Donc voilà, c'est comme ça qu'on gère un petit peu les choses. Et oui, on peut avoir une notoriété assez limitée et malgré tout faire beaucoup de trafic et avoir un chiffre d'affaires conséquent parce qu'on fait justement une stratégie SEO qui est là pour nous rendre visibles sur les produits qu'on vend.
Conditions générales et SEO, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que ça aide en SEO d'avoir des conditions générales bien rédigées?
Oui,
Je parle
ça.
général du site.
Ben c'est ça, c'est une best practice en fait, mais tu sais, comme si c'est un peu comme oui, avoir une page de contact, avoir une politique en matière de cookies, être RGPD compliant, enfin, ce genre de choses. Voilà, il faut, et c'est tes conditions générales bien rédigées. C'est pas parce qu'elles seront bien rédigées que tu seras bon sur Google, mais c'est parce que disons que tu auras coché une des cases parmi les critères de classement de Google. Il y en a 200 hein, pour information. Google prend en compte à peu près 200 critères de classement. Ben voilà, tu auras coché une case et c'est en cochant ces petites cases-là à la fin que tu peux progresser.
Et avoir un plan du site, c'est une best practice, une case que
Oui,
tu coches
tout à fait.
entièrement.
C'est ça peut être une case. Alors quand tu as un plan de site, ton site il fait 10 pages, bon, ça apporte pas grand-chose. C'est-à-dire que le plan du site. Le plan du site, c'est deux choses en fait. Tu as un fichier qui est en XML, qui est un fichier technique qui s'appelle le sitemap. Bon, ça, c'est un fichier qui est lu par Google, par les moteurs de recherche, qui liste toutes les URL de ton site. Après, encore une fois, quand ton site il fait 15 pages, ça ne sert à rien. Mais quand tu as un site un peu gros, ça peut aider Google à détecter toutes tes pages. Et après, ce qu'on appelle le plan de site, c'est encore autre chose, c'est vraiment une page pour le coup. Une page qui fait un peu ton arborescence, tu vois, qui montre les liens vers les différentes catégories, tout ça. C'est pas inutile, mais c'est pas, je dirais, c'est beaucoup moins important que ça a pu l'être il y a quelques années. Ouais. Ne pas trop se casser la tête sur ce sujet.
Et ça veut dire quoi, indexer des pages?
Bah, ça veut dire tout simplement que quand Google il explore ton site, il peut les mettre, tu sais, sur ses serveurs. C'est un peu, tu sais, c'est un peu comme une bibliothèque, un hein, Google, dans le fond, c'est que il explore des pages, des sites, tout ça. Tout ça, c'est des rayons de bibliothèque. Et puis après, quand quelqu'un fait une recherche, lui, son rôle, c'est de restituer la bonne page du bon livre, du bon rayon, dans son résultat de recherche. Tu vois?
Alors, on part sur un point plus vidéo. Est-ce qu'on doit utiliser la vidéo pour que ton site soit mieux référencé sur Google?
Ouais, ça aide. Pour autant, c'est pertinent, c'est toujours pareil. Parce que si on fait une vidéo pour faire une vidéo, ça mène jamais très loin. En plus, toi, tu es la mieux placée pour le savoir que moi. Hein. S'il n'y a pas d'idée, il n'y a pas un concept derrière, c'est pas très très bon. Par contre, si on a un vrai message, si la vidéo produite a une vraie valeur ajoutée pour l'utilisateur, là, c'est évidemment très très pertinent. et en particulier non seulement pour la visibilité sur Google, qui peut faire remonter des vidéos. Tu sais, par exemple, sur beaucoup de tutoriels, hein, que ce soit les gens, ils tapent comment faire du ciment, comment poser une terrasse, ou sur le maquillage aussi, hein, comment maquiller ses yeux, tout ça. Google fait remonter des vidéos. Et même là, j'ai envie de dire, ça serait un peu dangereux de ne pas faire des vidéos si on ambitionne de se positionner sur ce type de recherche. Et en plus, sur YouTube, quand on a une bonne chaîne YouTube bien optimisée, bah, YouTube, on dit souvent, c'est le deuxième moteur de recherche après Google. Et d'ailleurs, YouTube appartient à Google.
Et si on part plus spécifiquement sur un vlog, est-ce qu'il y a une manière d'optimiser justement ta vidéo, d'aller encore plus loin par la rédaction du vlog, c'est quoi ce que tu nous conseilles de faire?
Bah, disons que, en fait, Google, sur le fond, la vidéo, il ne la lit pas. Ce qu'il lit, c'est son titre et puis ses différents éléments de description. Donc, quand tu publies sur ton site une vidéo, bah, faute de ta page, comme n'importe quel article, en réalité, faute de ta page, elle a un contenu avec un titre, une introduction, tu as la vidéo. Et puis après, soit la vidéo, tu as plusieurs solutions, hein. Soit tu fais un résumé de la vidéo en dessous, pourquoi pas, soit tu fais carrément une transcription, ce qui peut très bien marcher aussi. Mais c'est certain que sans contenu textuel autour de la vidéo, là non, par contre, en SEO, malheureusement, ça ne t'aidera pas.
Ok, on arrive à la fin. Donc là, je vais te poser deux questions. Est-ce que tu as un conseil en mindset à donner? Et la deuxième, c'est est-ce que tu peux nous indiquer tes outils intéressants pour mettre en place notre stratégie SEO?
Alors, en mindset, je dirais en SEO. Je pense déjà, faut pas procrastiner, ça c'est sûr, parce que j'ai vu tellement de gens autour des 10 dernières années en freelance, quand j'étais en agence, tout ça, tellement, j'ai vu tellement de gens qui regrettaient en fait de ne pas avoir fait de SEO plus tôt. C'est pas pour prêcher mon église, hein, pas du tout, mais vraiment, j'ai beaucoup de CEO, même pas au niveau CEO d'ailleurs, des gens qui faisaient du marketing, même des entrepreneurs aussi, qui disaient, ouais, si j'avais su, j'aurais commencé tout de suite par là. Bon, il y a de pas trop retarder. Et puis ensuite, ne pas avoir peur aussi. Parce que souvent, ce qui est un frein pour la création de contenu chez les entrepreneurs, c'est la peur. La peur de se faire voler leurs idées. La peur de créer des pages de contenu. Et puis comme ça révèle leurs secrets et tout ça. C'est une peur qu'on comprend. Enfin, quand tu as une idée un peu spécifique, tu n'as pas envie qu'un concurrent vienne la voler. Mais en fait, en entrepreneur, on est aussi de plus en plus, avec les réseaux sociaux, avec Google, avec tous les supports qu'on a, on est de plus en plus aussi sa propre marque. Et donc, en fait, même pour une idée équivalente, les gens ne viennent pas. Enfin, j'arrive pas à te dire ça correctement, mais disons que les gens viennent par rapport à ta propre attractivité, tu vois. Et ce qui est important dans une idée, tu as la valeur réelle, qui est ce qu'elle est. Mais tu as aussi pour beaucoup, et ça c'est même décisif quand tu la vends, c'est sa valeur perçue. Et ce qui fait la perception de la valeur de ton idée, c'est ta marque. Et si tu restes dans la peur, si tu partages pas, si tu donnes pas, si tu crées pas de contenu, ben, tu auras du mal en fait à être légitime, tout simplement. Voilà, donc vraiment, ça sera pour les conseils mindset. Après, pour les conseils un peu pratico-pratiques du SEO, un outil que je pourrais conseiller. Je pense qu'il y a quand même deux outils qui sont gratuits, qui sont des outils Google et que n'importe qui a un site web devrait installer et regarder un petit peu. Bah, c'est Google Search Console. On l'appelle aussi le Google Webmaster Tool. C'est gratuit. Et en fait, c'est un peu une sorte d'interface qui donne quelques éléments SEO au webmaster. Donc, ça va être, bah, tiens, combien de pages explore Google? Quels sont les mots sur lesquels le site apparaît dans les résultats de recherche? Super important, évidemment, comme données. Voilà, ça va donner ce genre de choses un peu de base et c'est gratuit. Donc, tu as vraiment, vraiment, allez-y, quoi. Et puis, Google Analytics aussi pour toute la partie comportementale. Ça, je ne vais pas faire un dessin, hein, puisque Google Analytics, je pense que la plupart de tes auditeurs comprennent à peu près de quoi il retourne, mais c'est vrai que c'est important de s'intéresser au comportement des utilisateurs une fois qu'ils arrivent sur le site. Et puis, troisième petit outil, qui est encore une fois pas vraiment un outil, c'est un outil d'une banalité effarante, mais qui est en fait extrêmement utile. Regardez ce que suggère Google quand vous commencez à taper des termes de recherche qui pourraient mener vers votre site. Regardez aussi les people as to ask. Tu sais, c'est. Ah, je ne sais plus comment on le dit en français, mais c'est comme Google, tu fais une recherche et puis tu te dis d'autres internautes ont aussi posé la question suivante et puis te listent trois ou quatre questions. Tu vois? Et ça peut être vraiment super intéressant parce que ces questions-là, elles ne viennent pas de nulle part. C'est en fait des recherches. Donc voilà, vraiment s'intéresser à ce que cherchent les gens avec cet outil. Et déjà là, il y a vraiment de quoi faire.
Merci Lionel, vraiment merci pour toute cette expertise, pour tout ce que tu as partagé durant ce podcast. Donc
Merci à toi.
voilà, je te dis à la semaine prochaine.
Merci, Émilie.